France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, le sauvetage d'Abou Simbel et la civilisation perdue de Nubie. En 1954, le premier ministre égyptien, futur président de la République, Gamal Abdel Nasser, lance son pays dans un chantier pharaonique, c'est le cas de le dire. Le haut barrage d'Aswan qui doit faire entrer l'Égypte dans la modernité. Le régime militaire égyptien entend se donner les moyens de son indépendance nouvellement acquise. Coincé entre les deux blocs de la guerre froide et en conflit avec ses voisins israéliens, l'Égypte cherche sa place dans le présent. Comme un symbole, l'élévation du barrage, vital pour le pays, menace de faire disparaître tout un pan de son histoire. Au sud de la ville d'Aswan s'étend le désert nubien, l'un des berceaux d'humanité. Ici, des villages de pêcheurs occupent depuis des millénaires les rives du Nil, au milieu d'innombrables trésors de l'Antiquité, parmi lesquels deux joyaux, les temples de Ramsès II à Abou Simbel. Mais déjà, les eaux du lac artificiel montent. Bientôt, tout sera englouti. Le monde entier, sous l'égide de l'UNESCO, se presse alors au chevet de l'antique Nubie. Antique, oui, car il ne s'agit pas de venir en aide aux populations contraintes à l'exil, mais bien de sauver des pierres millénaires. Et ainsi commence le plus grand chantier au nom de l'histoire. Notre invité aujourd'hui, Vincent Rondeau, égyptologue, directeur du département des antiquités égyptiennes du Louvre. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Bastien Jans, coordination Franck Cognard. Chargé de programme Rebecca Donnante, réalisation David Leprince.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter.
Le 22 mars 1813, les rayons du soleil frappent les yeux clairs du jeune aventurier suisse Jean-Louis Burckhardt, 28 ans, l'aveuglant un instant. Que vient-il faire au fin fond de ce désert de Nubie? Lui-même ne le sait pas vraiment. Burckhardt est arrivé au Caire à l'hiver 1812, poursuivant un voyage qu'il a fait quitter Lausanne 3 ans auparavant. Son objectif? Remonter jusqu'aux sources du fleuve Niger. Mais la caravane qui doit l'amener dans l'Ouest africain est retardée. Désœuvré, c'est un peu en touriste avant l'heure qu'il entreprend de remonter le Nil, vers le sud donc, sur la trace des savants de Napoléon venus, eux, 15 ans plus tôt. Dépasser l'antique Thèbes, les temples de Karnak et de Louxor pour atteindre la ville d'Aswan, l'ancienne éléphantine. Puis descendre encore au sud pour contempler l'île de Philae, où un temple dédié à la déesse Isis se dresse, sublime, quasi intact. S'aventurer encore un peu plus loin, là où personne n'est allé, au-delà des eaux tortueuses de la première cataracte du Nil, aux portes de la Nubie. Là, le fleuve sillonne sur des centaines de kilomètres, entre les terres désertiques et méconnues, jusqu'au nord du Soudan. Sur le chemin, ce fameux 22 mars 1813, à 290 kilomètres au sud d'Aswan, Burckhardt fait escale. Dans son journal, il raconte.
Je laissai mon guide avec les chameaux et je descendis par un ravin, à peu près vertical et rempli de sable, pour aller visiter le temple d'Ebsambal, dont j'avais entendu maintes descriptions extraordinaires. Celui-ci s'ouvre à 20 pieds au-dessus de la surface des eaux et il est entièrement creusé dans la falaise rocheuse, presque verticale à cet endroit. Sa conservation est parfaite. La façade est décorée de 6 statues colossales debout.
Il est ce que l'on désignera des décennies plus tard comme le petit temple d'Abou Simbel, celui que Ramsès II a fait construire en l'honneur de son épouse Nefertari. Et ça, Burckhardt ne le sait pas. En 1813, de son côté, Champollion s'arrache encore les cheveux avec d'autres pour déchiffrer les hiéroglyphes. Nous n'en sommes qu'au balbutiement de ce qu'on appellera bientôt l'égyptologie. Burckhardt est de ceux qui ouvrent la voie.
Je m'apprêtais à remonter le ravin sableux de la même manière que je l'avais descendu. Par un heureux hasard, je fis quelques pas un peu plus loin, vers le sud, et mes yeux se portèrent sur ce qui est encore visible de 4 immenses statues colossales taillées dans le rocher.
«
Face à lui, émergeant à peine d'une grande dune de sable, il aperçoit le sommet des statues de Ramsès II. Quatre colosses qui gardent l'entrée du grand temple d'Abou Simbel, le voilà redécouvert. Mais il faudra attendre encore quelques années pour prendre la mesure de sa splendeur. En 1817, l'égyptologue italien Belzoni, en expédition au service de la couronne d'Angleterre, averti de l'existence du temple par son ami Burckhardt, veut procéder au dessablement du site. Mais pour cela, il a besoin de main-d'œuvre, et les Nubiens du village d'Essembal sont réticents. Ils craignent de s'attirer malheur en acceptant l'argent des Blancs pour leur livrer ce lieu sacré. Belzoni écrit, méprisant, « C'est pourtant avec cette race d'hommes que j'allais avoir affaire. » Alors il propose plus d'or encore, et parvient à convaincre 40 d'entre eux de dégager suffisamment de sable pour accéder à l'entrée du temple. Au prix d'efforts titanesques, les quatre colosses de Ramsès II, hauts de près de 20 mètres, sculptés à même la montagne de grès, sortent d'un long sommeil.
Les monuments sont des monuments parce qu'ils doivent inspirer.
Inspirer quoi dans ce cas-ci ?
Dans celui-ci et dans tous les autres, la puissance.
Et le temps s'accélère. Là-bas, tout au sud du pays, les pharaons de pierre observent, impassibles, les soubresauts qui animent la terre et le peuple d'Égypte. L'Empire ottoman y fait loi jusqu'au début du XXe siècle. Puis vient l'heure du protectorat britannique et d'une indépendance de façade. Les Occidentaux transforment l'Égypte en un point névralgique de l'économie mondiale. C'est ainsi que le canal de Suez est creusé en 1868, puis un premier barrage à Assouan est élevé en 1902 pour maîtriser les crues du Nil. Déjà en Nubie, les eaux montent dangereusement. Le temple d'Isis sur l'île de Philae est inondé au grand dam de l'aventurier Pierre Loti qui pleurera au nom du progrès la mort de Philae. Les égyptologues, toujours plus nombreux, toujours occidentaux, arpentent le sol égyptien tels des pionniers cherchant fortune dans la vallée du Tennessee. Et quand le tombeau de Toutankhamon est découvert en 1922, le monde entier n'a Dieu que pour l'or des pharaons. Tandis que les musées de Paris, Londres, New York ou Berlin enrichissent leurs collections, le service des antiquités au Caire, invariablement dirigé par des Français, garde jalousement la main sur l'histoire des Égyptiens. Ainsi, l'ordre des choses dans cette Égypte sous influence semble-t-il inaltérable jusqu'à l'année 1952 où subitement tout change.
Au Caire, depuis la violente journée d'émeute qui a provoqué le renversement de Naas Pacha et l'établissement de la loi martiale, le centre de la ville n'est plus qu'un amas de ruines. Les établissements anglais sur lesquels les manifestants se sont acharnés semblent avoir subi un intense bombardement. En Égypte, à la suite du coup d'état du général Naguib Pacha, le roi Farouk, qu'on voit ici à bord de son yacht Maroussa, qui depuis l'a emporté vers l'exil, a été, après 16 ans d'un règne mouvementé, contraint d'abdiquer en faveur de son fils le prince Ahmed Fouad, âgé de quelques mois. De notre envoyé spécial en Égypte, ces images authentiques les plus récentes de la crise égyptienne, le général Naguib venait d'être écarté du pouvoir par le colonel Nasser. La foule grondait dans les rues du Caire, et les forces imposantes de la police et de l'armée maintenaient l'ordre.
Je me sacrifierai pour vous, je me sacrifierai pour vous. C'est avec ces mots, et après avoir échappé de justesse à une tentative d'assassinat, que le colonel Nasser vient imposer sa figure de libérateur de l'Égypte, qui entre ainsi dans une nouvelle ère. Depuis 342, et la mort du pharaon Nectanebo II, enchanté, la terre sacrée du Yosolaï Ra n'avait plus été gouvernée par un Égyptien. Autrement dit, 2300 ans d'influence étrangère. Renvoi de tous les fonctionnaires occidentaux, révolution agraire, contrôle de naissance, répression de tous les opposants, le Raïs Nasser, désormais tout puissant, n'y va pas que le dos de la cuillère pour faire entrer l'Égypte dans la modernité. Ce faisant, il pose les bases d'un état policier qui perdure aujourd'hui encore. Comme un symbole, l'Égypte reprend aussi la main sur son histoire. Au service des antiquités, le dernier directeur français renvoyé. Une demande est quand même adressée à l'UNESCO pour accompagner le service dans la transition. À sa grande surprise, l'égyptologue française Christiane Desroches-Noblecourt est invitée par les instances égyptiennes à venir prêter main forte. Oh, un caractère bien trempé, cette Christiane Desroches-Noblecourt, directrice du service des antiquités égyptiennes du Louvre. En 1938, elle est la première femme à diriger des fouilles d'Égypte. Pendant l'occupation, elle prend tous les risques pour mettre à l'abri les collections du Louvre. Mais à l'aube des années 50, elle est fatiguée des voyages, et hésite à répondre favorablement à l'invitation de Nasser. Et puis que trouverait-elle là-bas? L'Égypte qu'elle a connue n'existe plus, tous ses amis de l'intelligentsia occidentale sont partis. Elle accepte toutefois une première mission de 3 mois. Nous sommes à la fin de l'année 1954. Dans l'émission À voix nue sur France Culture, elle se souvient.
J'étais arrivé une fois de plus en Égypte à la saison des fouilles, au début de l'hiver, et j'ai entendu dire par des collègues égyptiens que la Nubie allait être noyée parce que on va être obligé de faire un barrage pour que l'Égypte ait un peu plus de supplément d'irrigation. Et pour eux, le problème était réglé. On devait condamner la Nubie. Et quand j'ai entendu l'explication rapide qu'on me faisait de ce que je considérais vraiment comme un drame, alors là, je me suis élevé.
Christiane Desroches-Noblecourt est maintenant investie d'une mission quasi messianique, sauver les temples nubiens. Mais comment faire face à un projet aussi important que la construction du haut barrage de la soie? L'édifice titanesque est crucial pour le développement du pays. Sans lui, impossible pour l'Égypte de se projeter dans la modernité et d'envisager nourrir une population qui ne cesse de croître. Mais de sa construction découlera la formation d'un lac artificiel gigantesque noyant une terre habitée depuis 5000 ans. La Nubie, qui au-delà de ses temples antiques et de ses sites rupestres, compte 100 000 âmes regroupées dans une myriade de villages de pêcheurs au bord du Nil. Face à la fatalité qui s'abat sur ce monde perdu, Christiane Desroches-Noblecourt cherche du soutien. Et elle s'adresse à Mustapha Amer, le nouveau directeur du service des antiquités.
Je n'ai pas eu beaucoup de succès tout de suite. Mais à la fin, j'ai fini par trouver un très haut fonctionnaire égyptien qui s'appelait Mustapha Amer, à qui j'ai dit « Il est impossible que vous laissiez faire ». Il me dit « Mais je peux pas faire autrement ». La façon dont vous me répondez, lui dis-je, m'afflige. Vous, égyptien, vous baissez les bras. Il m'a dit « Je peux pas, j'ai aucun moyen ». Alors je lui ai dit « Bah, puisque vous n'avez aucun moyen, déléguez-les-moi ». Permettez-moi d'agir à votre place. Dites que j'ai outrepassé tous mes droits, que je suis une femme épouvantable. Mettez-moi à la porte de l'Égypte, mais attendez que j'ai réussisse mon projet.
Janvier 1955, le directeur de l'UNESCO, Luther Evans, est attendu au Caire pour rencontrer Nasser. Quand elle l'apprend, Christiane Desroches-Noblecourt se dit « Tiens, une étroite fenêtre de tir est en train de s'ouvrir ». Alors, surprenant le grand gaillard texan dès qu'il pose le pied sur le tarmac du Caire, l'égyptologue française s'acharne à le convaincre de faire un crochet par la Nubie pour visiter le site menacé d'Abou Simbel. Elle a tout organisé en amont et elle est persévérante. Quelques jours plus tard, comme une poignée de chanceux avant lui, Luther Evans se retrouve bouche bée, le regard illuminé par une vision étourdissante. Se reflétant dans les eaux calmes de son embarcation est en train de fendre, le visage du pharaon lui apparaît. Calmement assis sur leur trône de pierre, les colosses de Ramsès II, haut de 20 mètres, les regardent. Droite du haut de son petit mètre 58, Christiane Desroches-Noblecourt jubile. Elle a marqué un point. L'UNESCO et le monde se soucient à présent du sort des temples nubiens. À vrai dire, il n'est pas question encore de les sauvegarder. Non, pour l'heure, il s'agit de lancer un appel à la collaboration mondiale pour monter une grande campagne de prospection et de fouilles dans le sud de l'Égypte. Alors, des archéologues français, italiens et polonais investissent le désert nubien, armés de leurs outils de fouilles et d'appareils d'enregistrement, pour effectuer des relevés topographiques. Avant d'être engloutis, la Nubie devient terre ouverte et doit révéler tous ses secrets. Nasser, lui, se fiche de l'archéologie. Non, son seul objectif, c'est de financer son projet de barrage. Et en juillet 56, à l'écoute de la RTF, on ne peut se douter des conséquences dramatiques de la nouvelle. Que rapporte alors l'envoyé spécial à New York?
Les États-Unis ont pris la décision de ne pas aider l'Égypte à construire le barrage d'Aswan, qui aurait transformé la vie économique de ce pays. Les États-Unis ont retiré leur offre de mettre à la disposition de l'Égypte une somme de 56 millions de dollars pour aider à la construction du barrage. Le reste des frais de construction devait être fourni par la Grande-Bretagne et par la Banque internationale pour le développement et la reconstruction. Ils font remarquer que les avantages accordés par l'Ouest au président Nasser n'ont eu jusqu'à présent pour effet que de renforcer sa politique anti-occidentale en général. Le département d'État est conscient que, ce faisant, il court le risque de voir l'Union soviétique pénétrer économiquement dans une Égypte que l'Occident abandonnerait à elle-même.
La suite est connue. Pour financer son barrage, Nasser annonce la nationalisation du canal de Suez. En représailles, le Royaume-Uni, la France et Israël s'allient pour mener une offensive militaire qui ne dit pas son nom. C'est la crise du canal de Suez, et pour notre histoire, les conséquences sont dramatiques. En novembre 1956, Christiane Desroches-Noblecourt, comme tous les Français expatriés, doit être évacuée du Caire, la mort dans l'âme. Autour d'elle, les bombes françaises tombent sur le sol qu'elle s'acharne à préserver. Les rapports diplomatiques de l'Égypte avec la France et le Royaume-Uni sont rompus. En décembre, un télégramme parvient à l'UNESCO. Les égyptologues occidentaux ne sont plus les bienvenus en Égypte. Mais la note précise, à l'exception de Madame Desroches-Noblecourt, si elle le veut bien. C'est donc seule qu'elle retourne en Égypte pour tenter de sauver les temples nubiens, et même si pour cela, il lui faut déplacer les montagnes. Aujourd'hui, sauvez Abou Simbel.
France Inter. Affaires sensibles.
Sur la rive droite du Nil, la falaise est creusée de nombreux temples et tombeaux. Vous allez assister à quelque chose d'assez extraordinaire. Et oui, à ceci, un homme en kayak visitant un temple. Au risque de tuer le rêve, je suis honnêtement obligé de vous dire que ceci est dû simplement au relèvement d'eau créé par le barrage d'Assouan. Assouan, son barrage, 45 mètres de haut, 2 km de long, c'est à lui que l'Égypte irriguée doit un niveau d'eau constant.
Dans Dans ce documentaire de 1957, les cinéastes enregistrent l'image du territoire nubien tel qu'il est à la fin des années 50 et tel qu'il ne sera jamais plus. Car si le barrage de 1902 a déjà modifié le territoire, ce n'est rien en rapport de ce qui se prépare 6 kilomètres en amont. Déjà, les travaux de terrassement sur le chantier du haut barrage d'Assouan ont commencé. Bulldozers et camions ont entamé un balai incessant pour préparer le terrain à l'édification d'une véritable muraille, un ouvrage long de 3 km, large de près d'un kilomètre. 42 millions de mètres cubes de béton pour diviser à jamais le Nil en deux parties quasiment étanches. Car Nasser a enfin trouvé son grand mécène, l'Union soviétique de Khrouchtchev, évidemment, qui après la défection des États-Unis n'a pas attendu longtemps pour venir tendre la main du Reich. D'ici 5 ans, la Nubie sera sous les eaux. Mais Christian Desroches-Noblecourt a trouvé également un partenaire de choix en la personne du nouveau ministre de la Culture égyptien, Tarwat Okasha, un homme de lettres, un homme de qualité. Dans une entrevue décisive, la Française convainc le ministre de faire appel à l'UNESCO. Adressez-vous à cette organisation qui s'adressera au monde entier pour une œuvre commune de sauvegarde. Oui, ce sera la plus belle croisade culturelle qui soit. Vous ferez école, lui promet-elle. Convaincante. En 1959, et en réponse à l'appel officiel des gouvernements égyptiens et soudanais, un comité composé d'archéologues, de responsables de musées et d'autres experts internationaux, des Russes, des Américains, des Italiens, des Anglais, embarque sur le bateau de l'UNESCO, direction la Nubie. « Je ne leur ai fait grâce d'aucun site », s'amuse Christian Desroches-Noblecourt. « Donc, suivez le guide. Philae, Kalapcha, Wadi Essebois, Amada, Der, Abou Simbel, jusqu'à Wadi Alpha, au nord du Soudan. 22 sites sur le sol égyptien et soudanais sont scrutés. Tous ne pourront pas être sauvés, évidemment. Mais dans un communiqué officiel, la disparition à venir de Philae et Abou Simbel sont déclarées comme des pertes irréparables pour le patrimoine culturel de l'humanité. Et pour la première fois, la notion d'un patrimoine mondial est posée. Les médias du monde entier relaient ces appels.
Déjà, l'ancien barrage d'Assouan avait à demi submergé sous les eaux du Nil les temples de Philae. La construction du grand barrage, qui fut à l'origine de l'affaire de Suez, finira de l'ensevelir. La ruine qui menace ses trésors, vieux de 3000 ans, a ému l'UNESCO qui lance un appel à la solidarité humaniste du monde entier. La même menace pèse sur le temple d'Wadi Essebois et sur celui d'Hathor, où la déesse est représentée sous les traits de la reine Néfertari. Il en sera de même à Abou Simbel, du temple gigantesque dont les colosses, creusés dans le roc, ont 20 mètres de hauteur. Il faudrait entre 15 et 30 milliards pour sauver ces reliques prestigieuses. Mais on peut tout de même se demander comment ceux qui projetèrent le barrage d'Assouan n'avaient pas prévu les conséquences de leur projet.
Pour l'UNESCO, qui est encore une jeune institution, créée seulement 15 ans plus tôt, l'occasion est trop belle de souligner son importance. Le 8 mars 1960, une grande cérémonie est organisée à Paris pour lancer un appel officiel à la coopération internationale pour la sauvegarde des monuments de Nubie. En pleine guerre froide, alors que les relations entre l'Égypte et l'Occident sont toujours rompues, il a fallu des trésors de diplomatie pour réunir dans la même assistance le président Nasser et le ministre français de la Culture, André Malraux. Celui-ci prend la parole en dernier et gratifie l'assistance de quelques mots dont il a le secret.
« Regarde, vieux fleuve dont les crues permirent aux astrologues de fixer la plus ancienne date de l'histoire. Les hommes qui emporteront ces colosses loin de tes eaux à la fois fécondes et destructrices, ils viennent de toute la terre. Que la nuit tombe et tu reflèteras une fois de plus les constellations sous lesquelles Isis accomplissait les rites funéraires, l'étoile que contemplait Ramsès. Mais le plus humble des ouvriers qui sauvera les effigies d'Isis et de Ramsès te dira ce que tu sais depuis toujours, ce que tu entendras pourtant pour la première fois. Il n'est qu'un acte sur lequel ne prévalent ni l'indifférence des constellations ni le murmure éternel des fleuves. C'est l'acte par lequel l'homme arrache quelque chose à la mort.
Après les mots, les actes. 40 équipes techniques venues des 5 continents débarquent en Nubie, prêtes à travailler à la sauvegarde de 22 monuments. Mais les obstacles sont nombreux. Politiques et administratifs d'abord. Comment coordonner toutes ces équipes internationales sur le sol égyptien? D'autant que, dans les couloirs présidentiels de la nouvelle République arabe unie, rêvée par Nasser, l'influence de l'UNESCO sur son sol n'est pas sans créer quelques remous. Dans la masse de comités de rapport, la campagne de Nubie risque de submerger avant les monuments eux-mêmes, ricane-t-on en haut lieu. Bref, la méfiance est de mise. Car au fond, si chacun est là pour une bonne raison, ce n'est jamais vraiment pour le salut des Égyptiens d'aujourd'hui. D'ailleurs, alors que le haut barrage d'Assouan commence à s'élever, dans les villes de Komombo et d'Esna, un peu plus au nord, des centaines de baraquements sont construits à la hâte. Ici, des milliers de familles nubiennes vont devoir déménager, quittant à jamais leur village millénaire pour rejoindre une modernité pleine d'incertitudes. Mais d'elles, personne ne se soucie vraiment. Non, les intérêts sont ailleurs. Comme le confirme cette lettre au ministère des Affaires étrangères français en mai 1960, lettre de Christiane Desroches-Noblecourt, qui, elle, ne perd jamais le Nord. Morceau choisi.
Vous et moi savons bien que si toute cette action que j'ai entreprise depuis 5 ans a été menée avec tant d'acharnement, c'était avant tout pour remettre en place nos activités égyptologiques et même les défendre. Cela ne doit pas nous faire perdre de vue le point essentiel de l'opération Nubie. La réouverture de nos chantiers français en Égypte et une ère nouvelle pour la répartition des objets trouvés. Je pense à Tanis, à Karnak, mais aussi à Saqqara, où nous trouverons certainement des trésors importants de l'Ancien Empire. Quelle moisson scientifique pour nos égyptologues et quel partage pour nos musées.
Le discours de l'égyptologue française fait mouche auprès du général de Gaulle et la France n'hésite pas à mettre la main à la poche pour soutenir la campagne nubienne. Comme souvent, c'est l'argent qui reste le principal problème à résoudre pour la mission de l'UNESCO. Le principe retenu par l'organisation est celui d'une participation volontaire des États membres. Oui, volontaire. Donc, pas très efficace. Lobbying auprès des gouvernements, des banques, des entreprises, démarchage de potentiels mécènes privés. L'UNESCO s'embarque dans une périlleuse campagne de promotion pour financer son projet. La manœuvre n'est pas simple, car que promettre en retour? Des trésors antiques? Il ne faudrait pas donner l'impression que l'Égypte brade son patrimoine au plus offrant. Déjà que ce refrain moqueur est repris en chœur dans les médias du voisin israélien, c'est pas le moment d'en rajouter. Dans le monde universitaire également, beaucoup s'élèvent contre ce projet démesuré, non sans une certaine aigreur envers celle qui le mène de front, Christiane Desroches-Noblecourt. Une femme à l'initiative d'une telle entreprise, ça ne plaît pas à tout le monde. Alors que le chantier du barrage arrive à son terme, le soutien financier des États-Unis dans la campagne nubienne serait décisif. Mais l'opinion américaine est réticente. Après tout, pourquoi venir en aide à Nasser, cet allié de Moscou? Donc, par tous les moyens, il faut réactiver le mythe égyptien dans l'esprit de l'Américain moyen et justement, une occasion se présente.
Elizabeth Taylor as Cleopatra, siren of the Nile. Her stunning beauty and notorious intrigue turned the tide of civilization. Richard Burton as Mark Antony, rash, impetuous leader of once invincible legion.
Cléopâtre de Joseph Mankiewicz. Quand le film le plus monumental de l'histoire d'Hollywood sort sur les écrans américains en 1963, il est précédé d'un petit film de l'UNESCO et d'une demande de don pour la Nubie. L'année précédente, le trésor de Toutankhamon entame une tournée pharaonique aux États-Unis, traversant 18 villes. En 67, à Paris, des milliers de Français fantasmeront à leur tour devant le masque en or du demi-dieu égyptien. Bon, de là à donner un peu de leur salaire à la campagne nubienne, c'est une autre histoire. Toujours est-il qu'il faut plus que de l'argent des bons citoyens américains et français pour financer les chantiers colossaux qui se préparent en Nubie. Pour convaincre les États de s'engager dans cette folle aventure, l'Égypte doit se résoudre à l'impensable, mais en choisissant les bons mots. Donc, il ne s'agit pas de vendre les temples, mais de les céder. Il ne s'agit pas de transactions commerciales, mais d'une extension nouvelle du rayonnement de l'Égypte. Le résultat est le même. Le temple de Dendur est offert aux États-Unis, celui de Taffa aux Pays-Bas, celui de Debod à l'Espagne et celui de Lesilla revient à l'Italie. Les quatre sont à présent exposés comme des œuvres d'art dans des musées aux murs de verre, à plusieurs milliers de kilomètres du désert nubien. La France, elle obtiendra des concessions de fouilles à Saqqara et surtout à Karnak. Bref, tout le monde y trouve son compte. Et en octobre 64, le Congrès américain valide la participation des États-Unis à la campagne nubienne. Voilà, l'argent est là, les chantiers vont pouvoir commencer. Mais le temps presse. L'explorateur et ethnologue français Pierre Ichac l'explique au micro de la RTF.
Vendredi prochain, 15 mai, à Aswan, à 7 km environ en amont des cataractes fameuses et de l'ancien barrage, le bâtard d'eau, la digue, de roc et de sable qui porte en germe la masse géante du futur haut barrage, aura fermé définitivement le cours du Nil. C'est dire que cette cérémonie du 15 mai représente un tournant décisif dans l'histoire du continent africain. Se déroulant dans l'un des états indiscutablement les plus avancés de ce continent. Tout à l'heure, nous vous ferons entendre un reportage réalisé parmi les premiers des 50 000 Nubiens d'Égypte vivant depuis des siècles, si l'on peut dire en amont d'Aswan, que l'inondation de leur vallée a obligé à l'émigration vers l'aval du Nil.
Pour plus de 50 000 Nubiens, le sort est jeté. Ils sont condamnés à l'exil et leurs 44 villages à l'engloutissement. Et ce n'est pas une vie de rêve qui les attend dans les ghettos de Komombo. Ils peinent toujours aujourd'hui à faire reconnaître leurs droits. Et leurs manifestations mémorielles sont systématiquement réprimées par le gouvernement égyptien. Sur les 22 sites antiques sauvés par l'UNESCO, en revanche, le travail commence. Si la plupart des temples, d'envergure modeste, peuvent être démontés pierre par pierre et déplacés sans trop de difficultés, certains cas particuliers nécessitent des trésors d'ingénierie. Le fragile temple d'Amada, par exemple, impose des précautions particulières. Il est confié aux soins d'une équipe d'ingénieurs français engagés dans une drôle de course contre la montre et qui fascine tout le monde.
Si Abu Simbel est le plus gigantesque, le plus singulier des chantiers que les Felouks rencontrent en descendant le Nil est sans aucun doute celui du temple d'Amada. La pancarte qui le signale a de quoi faire rêver, déplacement sur voie ferrée. Une entreprise française s'est chargée de déplacer les 800 tonnes du sanctuaire dans leur intégrité. Au préalable, pour assurer sa rigidité, ont dû cercler le temple comme un vulgaire paquet et poser sous les fondations des poutrelles de béton. Il fallait encore couler 3 poutres porteuses transversales, poser 3 voies ferrées et installer sous les poutres porteuses les 11 chariots à vérins hydrauliques qui soulèveraient le temple. Des pompes hydrauliques installées à l'arrière actionnent les vérins pousseurs et, centimètre par centimètre, le temple progresse.
Mais c'est à Abu Simbel, où les temples sont creusés à même la montagne, que les ingénieurs lèvent le plus grand défi technique. On a longtemps imaginé construire une muraille autour des deux temples pour les protéger des eaux. Finalement, après des discussions interminables, une solution plus folle encore est retenue. Les deux montagnes vont être découpées pour isoler les temples, puis ceux-ci seront tronçonnés grâce à un fil hélicoïdal et déménagés morceau par morceau. L'opération commence en 1964. En quelques semaines, le site se transforme en une ville immense et cosmopolite d'ingénieurs et d'ouvriers. Plus d'un millier de personnes viennent s'installer temporairement dans des maisons de fortune construites tout proche des sites. Des routes d'approvisionnement sont tracées, une centrale électrique est édifiée, tandis qu'un barrage temporaire est élevé autour des temples pour s'accorder quelques mois de plus au sec. Une véritable course contre le temps et les eaux commence à monter. 1042 blocs de plus de 20 tonnes sont extraits, soigneusement étiquetés, puis grutés 64 mètres plus haut et réassemblés. Les ingénieurs s'acharnent à respecter scrupuleusement l'axe du soleil. Là est leur première mission, respecter l'ingéniosité et l'extrême précision des architectes de l'époque. Car deux fois par an, le 22 février et le 22 octobre, à l'aube, le premier rayon du soleil s'introduit jusqu'au sein des saints, frappe de sa lumière le fond du temple et y éclaire les statues des dieux magiques. En 68, 20 mois avant l'échéance prévue, le chantier touche à sa fin. Abu Simbel est sauvé. C'est l'œuvre la plus monumentale de l'histoire de l'archéologie et de la sauvegarde patrimoniale. Bientôt, on construira un aéroport pour les millions de touristes attendus, tandis que des hôtels de luxe viendront s'implanter en lieu et place des anciennes habitations nubiennes. implantés dans une montagne artificielle. Les colosses de Ramsès II contemplent à présent les eaux calmes de l'immense lac Nasser qui ont submergé la Nubie. Le 22 septembre 1968, jour de l'inauguration des temples réagencés, Pierre Ichak, tout juste revenu d'Égypte, raconte ce qu'il a vu.
Alors, le niveau de l'eau s'est élevé à plusieurs reprises, a été élevé artificiellement à plusieurs reprises, je crois, en 1902, en 1906, en 1934. Et à chaque fois, il a fallu évacuer les populations.
Ben oui, alors, à l'heure actuelle, il n'y a plus rien. C'est une chose assez extraordinaire. L'eau a monté d'une bonne trentaine de mètres. Et avant, en 1960, j'avais vu une Nubie encore vivante. Je dis bien encore vivante parce qu'autrefois, il y avait des champs cultivés. Ces champs cultivés ont été peu à peu ensevelis sous l'ancien barrage. Il y a eu des villages et les gens, patiemment, ont déménagé, rebâti un peu plus haut la première fois, rebâti un peu plus haut la deuxième fois, rebâti un peu plus haut la troisième, et ils ont déménagé définitivement, aidés bien sûr par le gouvernement égyptien, ce qui fait qu'on navigue dans un lac, dans le désert, un désert absolument vide.
Et dans son discours d'inauguration, le directeur de l'UNESCO, René Maheu, n'aura pas un mot pour les Nubiens contraints à l'exil, non. Devant un parterre de dignitaires du monde entier, c'est à Ramsès II directement qu'il s'adresse.
Nous sommes venus, ô roi, ajouter notre travail au tien pour préserver ta quête d'éternité. Nous avons évidé la montagne, découpé les statues, les piliers et les parois souterraines, puis nous avons rebâti dans la lumière ce que tu avais creusé dans les ténèbres. Ici, l'homme est apparu dans son universalité. Il a pris tes colosses dans ses bras et les a portés sur le haut de la falaise afin que toi, fils de Ré, qui fut jadis son orgueil et sa vanité, tu attestes désormais la fraternité, le désintéressement et sa splendeur.
Et probablement dans ce même esprit de désintéressement, un comité de répartition des témoignages de reconnaissance est créé quelques semaines après l'inauguration. Pour chacune des nations participantes, c'est Noël. Oui, chacune peut repartir avec en guise de cadeau un temple ou une statue inestimable. Pour Christiane Desroches-Noblecourt, pour le Louvre et pour la France, c'est un sublime buste du pharaon mystique Akhenaton. Ce chef-d'œuvre témoigne d'une des périodes les plus fascinantes et les plus sensibles de l'Égypte ancienne. Mais ça, c'est presque une autre affaire.
Something hides in every night, brings desire from the deep, and with it comes a burning light to keep us from our sleep. And as a false star tries its best to make the white pearl shine, glances of a new day have arrived.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, le sauvetage d'Abou Simbel, notre invité Vincent Rondeau. Bonjour.
Bonjour.
Vous allez vous rapprocher du micro, s'il vous plaît. Donc, égyptologue, spécialiste de la Nubie et directeur du service des antiquités égyptiennes du Louvre. Pourquoi les temples d'Abou Simbel cristallisent-ils ainsi l'attention mondiale après l'alerte donnée par l'égyptologue française, Christiane Desroches-Noblecourt, à qui on peut rendre un grand hommage, hein. Quel travail, hein.
Ah, mais certainement, elle a une énergie considérable. Et puis, je pense qu'elle a créé ses relations d'amitié avec Sarwato Kasha.
Ce ministre lettré,
absolument, oui, cultivé, et qui ont été tout à fait nécessaires à mener jusqu'à son terme une telle opération. On lui doit beaucoup.
Alors, qu'est-ce qui fait leur valeur inestimable à ces trésors égyptiens d'Abou Simbel?
Ça, c'est la question fondamentale. Les temples d'Abou Simbel sont un espèce de pivot du monde et de pivot de l'histoire de l'humanité d'une certaine façon. Il y a déjà une chose qui me surprend à chaque fois que j'y repense, c'est que Petra est découvert par Burckhardt en 1812, et c'est le même Burckhardt en 1813, un an après, qui découvre Abou Simbel. Ouais. Et déjà, ça nous donne un niveau d'intensité, si vous voulez, à la... Burckhardt est le premier européen, comme on dit, après les croisades, à remettre les pieds à Petra.
Ouais. Donc qui est aujourd'hui en Jordanie.
En Jordanie. Donc il faut pas oublier aussi qu'on a connaissance de l'existence de ces régions. Je reviens à la Nubie à présent. On a connaissance de ces régions à travers les auteurs grecs. Donc il y a des quantités de gens instruits, de lettrés, etc., qui les connaissent, ces régions, mais qui ne les ont jamais vues. Et donc des entreprises comme celle de Burckhardt, c'est de donner une réalité à ce patrimoine qu'on ne connaît que par des témoignages anciens désormais, mais qui sont les seuls. Et... autre chose, c'est qu'à Wadi Halfa, au niveau de Wadi Halfa, il y a la deuxième cataracte, qui là aussi, dans l'imaginaire général, est appelée la grande cataracte. C'est à partir d'elle que commence l'Éthiopie. Au-delà et des régions, on l'appelait l'Éthiopie à l'époque, hein, c'était pas le nom du pays qu'on connaît aujourd'hui, l'Éthiopie des Romains. Abou Simbel est à une limite du monde connu. Il est à quelques kilomètres de la deuxième cataracte. Champollion disait, par exemple, qu'il fixait la limite de son voyage à la deuxième cataracte, qui serait ses colonnes d'Hercule. Mais lui, ce qu'il voulait faire, c'est aller jusqu'à Abou Simbel. Il commence tout son voyage en redescendant le Nil par Abou Simbel, voyage de vérification de toutes ses compréhensions. Donc voilà, Abou Simbel, il est au cœur de plein d'enjeux, de plein d'historiographie, de plein de rêveries aussi. Mais il faut le préciser, à l'époque, on ne l'a pas encore découvert, le monument lui-même, parce que ça, c'est d'ailleurs très bien raconté dans le reportage qu'on a entendu, c'est que c'est par hasard qu'il tombe sur les colosses du roi, sur le temple avec les colosses du roi.
Ouais.
En descendant une coulée de sable qui les recouvrait totalement.
C'est souvent le hasard, mais c'est comme les découvertes scientifiques. Parfois, c'est le hasard. Souvent le hasard.
C'est la sérendipité qui a joué son rôle. Et auparavant, on ne connaissait Abou Simbel que par le petit temple, celui qu'on appelle le petit temple, parce qu'il est d'un format un peu moins grand, et qui est dédié à Thor et à la reine Néfertari.
Plus globalement, qu'est-ce qui fascine dans l'égyptologie? Qu'est-ce qui fascine les populations dans la découverte ou la connaissance de cette civilisation-là, qui semble avoir un supplément d'âme, peut-être, par rapport à toutes les autres? Comment vous l'expliquez?
Vous avez raison, un supplément d'âme, c'est évident. Enfin, c'est sûr. Je pense qu'elle dispose d'un statut particulier par rapport aux autres civilisations, et qui peut se décliner en supplément d'âme, le cas échéant, bien sûr. Je pense que ce supplément d'âme ou ce statut particulier, on le doit là aussi aux Grecs et aux Romains, qui les premiers ont reconnus en la civilisation égyptienne.
Une matrice, une aspiration.
Matrice,
ouais,
les origines de leur propre civilisation, de leur propre dieu, les origines des grandes inventions, la médecine, l'architecture, l'écriture.
Le polythéisme.
Le polythéisme, etc. Et du coup, eh ben, je pense qu'il faut tirer la conclusion. Depuis les Grecs et les Romains, nous héritons de cette réputation que l'on donne à l'Égypte ancienne.
Je vois cette construction millefeuille.
C'est
comme
une
ça.
Construction en millefeuille et en héritage.
En héritage et en transmission.
En transmission.
C'est parfait. On a raconté le sauvetage de 22 sites, mais mesure-t-on réellement l'ampleur des pertes pour l'archéologie à la suite de la construction du barrage et de la construction du lac Nasser? Ou alors est-ce qu'il faut pouvoir concilier la mémoire, l'histoire et le progrès sur un même territoire?
Indiscutablement, et l'archéologie n'est faite que de ça. Et souvent, les progrès, c'est-à-dire les grands aménagements territoriaux, sont à l'origine de campagnes archéologiques. Hein. C'est à l'époque, d'ailleurs, c'est une tendance mondialisée, hein, la construction de grands barrages. Et il y a des archéologues, on appelle les barragistes, qui sont spécialistes pour aller faire ce qu'on les surveys, c'est-à-dire ces grandes enquêtes archéologiques à grande échelle pour voir comment sauver ce qu'on peut sauver. L'archéologie, par ailleurs, est habituée à ne travailler que sur un tout petit pourcentage de ce qui a été préservé. Alors là, évidemment, dans un cas comme celui-là, c'est criant, évidemment, d'injustice, pourrait-on dire, à un patrimoine définitivement englouti. Mais tous les travaux qui ont été faits et qui continuent d'être exploités aujourd'hui, on est encore en train d'exploiter les masses documentaires qui ont été préservés, qui ont été sauvegardés, mais qu'on n'a pas eu le temps d'étudier. Mmh. Et on étudie ces masses documentaires à la lumière de ce qu'on sait aujourd'hui. Donc ça continue, si vous voulez, à fournir des informations.
Vous êtes en quelque sorte le continuateur du travail de Christiane Desroches-Noblecourt. Parlons-en, arrêtons-nous sur cette grande dame. Que représente son œuvre pour l'égyptologie française?
Son œuvre pour l'Égypte.
Et puis, au-delà de l'égyptologie française, d'ailleurs.
L'égyptologie tout court.
Mais bien sûr.
Non, je pense qu'elle en est une des figures, incontestablement. Et si elle en est une des figures, c'est certainement grâce au sauvetage des monuments de Nubie et grâce à l'exposition Toutankhamon. Voilà quelqu'un qui, par la force des choses, je dis pas qu'elle était animée de ça pour elle-même, mais par la force des choses, elle s'est retrouvée sous les feux d'une actualité archéologique brûlante. Elle a dû, et elle le dit très bien finalement dans les interviews qu'on entend d'elle, elle a dû prendre sur elle la charge de cet héritage, si vous voulez.
Oui.
Si on accepte mon explication, elle s'est sentie investie, elle a eu raison, et du coup elle a été entendue. Et je crois que c'est la place qu'elle a, et c'est le rôle qu'on lui reconnaît dans l'égyptologie. Par ailleurs, c'est un chercheur parmi d'autres, j'allais dire, qui a fait sa contribution,
oui,
comme les autres.
Mais
chercheurs.
C'est vrai qu'elle a fait preuve d'une pugnacité incroyable.
Exactement.
Dans cette histoire-là.
Elle a joué un rôle hors norme à ce titre-là, dans la préservation de cet héritage de l'humanité, quoi, avec un grand H.
On a vu la fascination de Toutankhamon, qui exerce Toutankhamon sur les populations, mais il y a aussi Akhenaton, il y a aussi Ramsès, notamment le 2, Ramsès 2. Qui sont, j'allais dire, pour poser une question simple, qui sont un peu les héros de cette histoire égyptienne quand on prononce des noms comme ça, Toutankhamon, Akhenaton, Ramsès? C'est quoi votre palmarès, vous?
Ah, mon palmarès? Qu'est-ce que je pourrais dire? C'est difficile, ça.
Toutankhamon fascine, on l'a vu.
Toutankhamon fascine, mais lui, il fascine parce que, évidemment, il y a la découverte hors norme de sa tombe, mais aussi, je dirais, parce qu'il est presque une démonstration. Il est bien la preuve que le pharaon est un potentat couvert d'or.
Ouais.
Et ça, c'est irremplaçable comme démonstration, que voulez-vous. On peut... Alors qu'il a régné que quelques années, on se plaît à rêver ce qu'a pu être le trésor d'un Ramsès II, par exemple, le trésor funéraire d'un roi aussi puissant que Ramsès II, quand on voit déjà ce dont disposait un petit roi comme Toutankhamon. Donc lui, je pense qu'il est, à nos yeux, il démontre cela, le pharaon couvert d'or. Et alors Ramsès II, ce qui est intéressant, c'est que c'est un pharaon qui est né avec l'égyptologie. Parce qu'auparavant, on ne le connaît pas sous ce nom. Mmh. Il s'est transformé dans la tradition, toujours celle dont on parle, depuis les classiques. Il s'est transformé en Sésostris, pour simplifier. Sésostris est devenu le nom générique que l'on utilise pour désigner un pharaon. Et pour fabriquer cette figure, on utilise beaucoup de ce qu'on nous a transmis du règne brillant de Ramsès II. Et en fait, c'est à partir de Champollion, avec l'invention du nom Ramsès, et à partir de ses successeurs, que Ramsès II va devenir ce que l'égyptologie en a fait, c'est-à-dire le plus grand...
Alors, quelle est l'importance du Louvre pour l'histoire de l'égyptologie? Et inversement, quelle est la place des antiquités égyptiennes dans l'histoire du Louvre et de son rayonnement? Et là, c'est votre rayon. Hein, je rappelle que vous êtes directeur du service des antiquités égyptiennes du Louvre. Donc absolument. Cette question est pour vous.
Oui, elle est pour moi. Et la réponse est toute simple. C'est que le département des antiquités égyptiennes que je dirige est l'héritier du musée égyptien que Champollion a installé en 1826-27 au musée du Louvre. C'est un des tout premiers musées européens de cette importance à faire une place pour elle-même à l'antiquité égyptienne. Turin, auparavant, 1824, trois ans plus tôt, a ouvert la série, si vous voulez. 1827 avec Berlin, le British Museum pendant ce temps-là, mais on pourrait en citer d'autres. En tout cas, le seul fait, par exemple, qu'il y ait un département des antiquités égyptiennes dans un musée national, de rang national, comme le musée du Louvre, en dit assez long sur ce statut très particulier de l'antiquité égyptienne.
Absolument, ce qui nous renvoie à la première question.
Ça confirme, et ça renvoie à la première question. Donc, c'est ça qui explique, c'est nécessité que l'humanité a de faire une place particulière à l'antiquité égyptienne. Et il faut reconnaître que par une tradition, si vous voulez, qui est tout à fait intacte aujourd'hui, la France a dépensé beaucoup d'énergie, d'énergie, comment dire, intellectuelle, physique, avec les fouilles, etc. Elle en dépense encore aujourd'hui beaucoup. On a beaucoup d'institutions de recherche en Égypte même qui travaillent en permanence. On est, je crois, le pays qui a le plus de chantiers de fouilles autorisés par les antiquités égyptiennes. Donc voilà, on est dans les grandes nations qui cultivent ce patrimoine.
Toute dernière chose, je pensais en vous écoutant, à la dimension spirituelle de la civilisation égyptienne. Alors on est fasciné par la civilisation grecque pour la philosophie, le théâtre, la politique, la civilisation romaine pour tout ce qui est technique, finalement. C'est un génie aussi, hein. Mais il y a ce côté spirituel dans la civilisation égyptienne qu'on a peut-être moins dans les deux autres. Vous partagez ça?
Oui, mais.
Et mystique,
oui, mystique, absolument.
Oui, mystique, plus que spirituel.
Mais ça, je pense que, enfin, il s'agit là d'une des traditions, si vous voulez, que nous a léguées l'Égypte ancienne. Parce que j'ai parlé des classiques, bien sûr. Hérodote, Diodore, Strabon. Mais il y a un autre vecteur, c'est la Bible. Toute la place que tient l'Égypte pharaonique dans la Bible, c'est énorme.
Mais oui.
Ancien Testament comme Nouveau Testament. Mmh. Donc voilà une autre voie. Et puis après, on peut citer la franc-maçonnerie, on peut citer plein de voies, si vous voulez, qui ont permis à l'Égypte ancienne de rester présente à nos esprits en permanence.
Absolument. Merci infiniment, Vincent Rambou. Merci. Je rappelle que vous êtes égyptologue, spécialiste de la Nubie et directeur du service des antiquités égyptiennes du Louvre. Merci, au revoir.
Au revoir.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Sauvé Abou Simbel, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Florian Dorimini.